c'est reparti pour un tour.
Arthur, on est bon?
Captain Vantu speaking, we are okay.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30.
Beaucoup de local et un peu d'autres choses.
Sonotone.
Ok.
Lunettes.
Ok. Question édito.
Ok.
Et parfois des redis.
Génial.
Décollage immédiat pour les matinales de Bartas.
Sur le 107FM.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 12 avril, il est 8h30, au programme de cette matinale, le festival Vue du Québec reprend ses droits la semaine prochaine et nous sommes avec Guillaume, bonjour.
Oui, bonjour.
Eh ben, comment on sent comme ça, merci d'être avec nous, comment on sent à quelques jours du festival là, de l'ouverture?
Eh ben ça va, écoute, j'allais dire on n'a jamais été aussi près, pas loin, mais en tout cas on commence à savoir où on va aussi.
Ouais, ça c'est une bonne nouvelle, en tout cas quel programme cette année, c'est dense. On va prendre le temps de parler de tout ça avec toi juste après l'édito. Et en deuxième partie d'émission, Arthur sera par téléphone avec Valentin Taillefer-Fontenas pour le festival de la Meufolle d'Alès qui se passe ce week-end au Parc des Expos. La musique, ce sera d'ailleurs des groupes qui passent à la Meufolle. Vous êtes bien sûr Bartas et on y va pour l'édito, c'est parti.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperie que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Je vous assure que je cherche des bonnes nouvelles, hein, mais quelle galère! Et puis là, je sais pas vous, mais ça m'énerve profondément, plus que ça même, ça m'inquiète. Vous avez sans doute entendu les propos de Darmanin sur la Ligue des Droits de l'Homme. Eh bien, en fustigeant mercredi dernier la Ligue des Droits de l'Homme, le ministre de l'Intérieur n'en était pas à son coup d'essai. En 2015 déjà, alors maire de Tourcoing, il avait déjà voulu annuler la subvention de la ville versée à la LDH, s'inscrivant ainsi dans une tradition d'extrême droite, en prendre aux défenseurs des libertés fondamentales. À Hénin-Beaumont, dans le Nord toujours, la première décision prise par l'extrême droite quand elle a pris le pouvoir a été de virer la LDH des locaux qu'elle occupait et qui appartenait à la mairie. Tout un symbole. Je ne connais pas la subvention donnée par l'État, mais ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qui ont pu être menées, soit dit en passant, celle de dénoncer le traitement par les policiers et autres préfets pour les manifs, c'est ce qu'a déclaré Darmanin. Il faudrait arrêter de subventionner la LDH, mais aussi le planning familial, s'interroger sur ce qui se passe à la Ligue de l'Enseignement, etc. Il y a du ménage à faire dans les grandes associations subventionnées par l'État. Tout ça, c'est Darmanin qui le dit. Eh oui, ça pique, n'est-ce pas? Ainsi, nous voyons bel et bien la direction que prend ce gouvernement. Le terrain est dégagé pour que l'extrême droite arrive au pouvoir dans quelques années. Flippant, inquiétant que je vous dis.
Là-haut, la terre touche le ciel où plus rien n'est artificiel. No. Oui, là-haut, où tout paraît plus beau, oh. Là-haut, où la terre touche le ciel, où plus rien n'est artificiel, no. Oui, là-haut, où tout paraît plus beau, oh. Montagne Pyrénées, vous êtes mes amours. Mon paradis sur terre, je vous aimerai toujours. Montagne fortunée, c'est dans vos vallées de velours que je rêve de passer mes nuits comme mes jours. Montagne hospitalière, les racines dont je suis fier. Quoi de plus beau sur terre que vos forêts et vos rivières? Montagnes éphémères, dont votre cœur n'est pas de pierre. Je vous serai fidèle jusqu'au jour de ma mise en bière. Là-haut, où la terre touche le ciel, où plus rien n'est artificiel, no. Oui, là-haut, où tout paraît plus beau, oh. Là-haut, où la terre touche le ciel, où plus rien n'est artificiel, no. Oui, là-haut, où tout paraît plus beau, oh.
Il sera au festival de la Meufolle qui a lieu ce week-end. L'artiste s'appelle Ryan et le morceau s'appelle Là-haut de retour en plateau avec Guillaume, directeur de la Nouvelle Dimension. Un des moments phares de Florac revient la semaine prochaine. Ça commence le 18 avril et jusque le dimanche 23, le festival Vue du Québec reprend ses droits J-6. Donc. Et Guillaume, même si c'était déjà un festival important, j'ai bien l'impression qu'il prend de l'ampleur. Est-ce que je me trompe ?
Ben oui, enfin après, en toute modestie, parce que ça reste un petit événement. J'ai souvent l'occasion de discuter avec d'autres directeurs de festivals autour de la francophonie, notamment, mais cinéma québécois. Mm-hmm. Ça veut dire quoi un festival qui prend de l'ampleur, etc. C'est difficile parce que dans certaines villes, ça va être la fréquentation qui va être extrêmement importante. Dans d'autres, ça va être la notoriété, etc. Là, c'est ce qu'on essaye de travailler, c'est surtout de continuer la lancée, en tout cas la reconnaissance qu'on a évidemment au niveau local, puisqu'on parle dans une station locale, mais aussi au niveau des institutions qui nous soutiennent et de manière générale sur le cinéma québécois. Donc c'est un festival qui prend de l'ampleur au niveau du cinéma québécois. Les gens prennent des tickets, font la queue pour venir au festival.
Tant mieux.
Et donc, c'est à nous de faire des choix. On peut pas accueillir tout le monde. Et ce qu'on met beaucoup en avant, c'est ça, c'est que les gens ne se rendent pas compte de l'autre côté de l'Atlantique ou même à Paris, qu'il y a aussi des difficultés de mobilité, des difficultés d'accessibilité, d'accueil, qui fait que de toute façon on est limité. Donc, le festival prendre l'ampleur, mais on cherche pas à aller vers du 15-30 000 spectateurs, c'est pas l'idée. Par contre, ce qu'on sait, c'est que il y a un retour qui est extrêmement positif de la part de tous les invités, des festivaliers aussi, je l'espère, puisque de toute façon ils reviennent aussi chaque année. Mais il y a une reconnaissance qui fait qu'on arrive à aller chercher des partenaires un peu plus loin, un peu plus important chaque année, et c'est ça qui est super important, parce que c'est ça qui permet aussi au festival de pouvoir continuer.
Et puis aussi en termes de programmation, puisque si je ne m'abuse, vous avez augmenté d'un jour cette année.
C'est ça.
Alors, c'est le mardi à la place du mercredi.
Ah ouais, c'est nouveau cette année. On augmente d'une journée pour une raison bien précise. En fait, on voulait le faire dès 2020. On n'a pas pu pour les raisons qu'on connaît, mais c'est que traditionnellement, depuis 2015, on fait un concert avec la Jeunette Verte. Son concert, pour des questions techniques, nous oblige à sortir de la Jeunette Verte pendant la journée du concert pour les balances, etc. Et ce qui fait que on se retrouve à faire moins de, enfin une journée de moins de séances, ou alors trouver d'autres lieux. Et puis un autre aspect, c'est qu'on nous demande de moins serrer les projections, les séances, pour avoir un peu de temps
entre deux séances.
Donc, étaler les séances et un jour de moins fait qu'on fait beaucoup moins de films, en fait. Donc on s'est dit, on va ouvrir le festival à une journée de plus, mais c'est aussi un double intérêt, c'est que ça permet de travailler sur la journée du mercredi avec des événements plus grand public, jeune public aussi, mais on va dire sur une potentielle disponibilité d'un public famille. Et donc voilà, on essaye ça cette année. Alors c'est sûr que ça demande aussi à avoir des invités un jour plus tôt, ça demande aussi à avoir des bénévoles un jour plus tôt, etc. Donc ça augmente en fait finalement beaucoup de choses, mais c'est très bien, parce que c'est aussi ça qui fait que le festival prend, comme tu dis, prend de l'ampleur. C'est que, pendant une semaine, l'idée, c'est qu'on parle de ça.
Commençons par le début. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est très joli et très rigolo à dire. C'est la région qui est mise à l'honneur cette année. Alors qu'on se situe un peu, c'est où et pourquoi l'avoir choisi ?
C'est où ? C'est très simple. Si vous situez à peu près le Québec sur une carte, le Québec, c'est une province frontalière de l'Ontario. Et donc, la région, parce qu'on appelle ça aussi des régions, de l'Abitibi-Témiscamingue, est au niveau de la frontière avec l'Ontario, donc ouest-sud-ouest du Québec. Et c'est une très grande région, avec à peu près que des lacs et des forêts, et quelques mines. On en a parlé un peu l'an dernier avec la règle d'or de Nicolas Paquette. Il y a une énorme industrie minière. C'est des images, si vous tapez Rouyn-Noranda, qui est la capitale, vous aurez ces images assez emblématiques d'une ville minière avec ses deux grandes tours et plein de fumée. C'est aussi une région très polluée de fait, et où il y a énormément de luttes. On ne va pas revenir là maintenant, mais vous aurez l'occasion d'en discuter avec les invités. Mais on avait reçu Richard Desjardins en 2015 pour, quand il était venu en concert. Lui, il vient de cette région-là et lutte énormément et pour la déforestation et pour les problèmes qu'engendrent les mines. Donc, c'est une région qui est importante à mettre en avant à plusieurs points de vue, mais qui est à la fois très éloignée, puisqu'on est à... Alors, selon avec qui vous discutez, on va être entre 8 et 12 heures de Montréal. En voiture, je ne sais pas à quelle vitesse chacun roule, mais en tout cas, j'ai eu des avis très différents.
Véro, elle met 6 heures pour y aller. Voilà, okay.
Et donc, c'est une région qui est quand même assez loin. Donc, c'est un peu comme si vous mettiez en avant, effectivement, je ne sais pas, l'Occitanie par rapport à Paris, en rajoutant les proportions du Québec. Donc, on est plutôt loin de Montréal. Et donc, c'est une région forcément où les gens sont... Il y a énormément d'entraide, les gens se connaissent tous. Vous le verrez quand vous les croiserez. Ils sont limite tous de la même famille. Et disons que les projets culturels se croisent vraiment. Et donc, il y a une énorme vitalité culturelle. Il y a une grosse scène musicale, bah, notamment avec Richard Desjardins qui lui avait démarré dans les années 70. Donc ça, c'est très connu. Il y a plusieurs festivals de musique et ou cinéma par là-bas. Donc il y a une grosse vitalité culturelle, un peu à l'image de ce qu'on va retrouver chez nous dans les Cévennes, qui est, on va dire, disproportionnée par rapport à la densité de population, à la population. Et donc nous, ce qui nous intéressait de mettre en avant, le projet, il est vraiment parti du film Les Chiens Loups qu'on va présenter. On avait déjà dans l'idée de présenter chaque année une région, mais elle arrive un peu par hasard et un peu avec une rencontre. Et en voyant Les Chiens Loups, donc, je connaissais bien le travail de Richard Desjardins. Les Chiens Loups qui ne met absolument pas en avant l'Abitibi-Témiscamingue. Je préfère les dire tout de suite, ça se passe uniquement dans une école, donc ça pourrait se passer dans n'importe quelle école. Mais par contre, on est vraiment dans un projet, un projet théâtre dans une école avec Alexandre Castonguet qui vient à la rencontre d'élèves pour les faire travailler sur une fable de La Fontaine. Mais on a à la fois Alexandre Castonguet qui est un comédien assez emblématique et très connu là-bas et qu'on voit dans le cinéma québécois aussi de temps en temps. Et à la fois, il y avait cette rencontre avec une école, alors je ne vais pas dire rurale parce qu'on est quand même dans un milieu urbain, mais quand même dans une ville très éloignée avec des enfants qui se connaissent tous, avec, etc. C'est des choses qui parlent en fait beaucoup à nous ici. Mmh. Et le film, on avait très envie de le programmer. Et puis quand on a commencé à travailler autour du film avec le réalisateur, il nous a parlé de ce qu'il avait fait avant, Alex Marchal Amour, qui est un film aussi avec Alexandre Castonguet. Pour le coup, c'est une marche à travers l'Abitibi qui pourrait faire écho à voyage avec un âne dans les Cévennes. Là, c'est voyage avec un sac à dos avec la poésie de Gaston Miron. Mais c'est vraiment quelque chose qui a commencé à prendre le pas. Et puis après, le clou est enfoncé avec Habiter le mouvement, qui est un film de danse avec un projet d'un chorégraphe qui vient travailler avec des danseurs non professionnels en ville et en extérieur, enfin en milieu naturel. Et quand on a vu le film, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on présente ça. Forcément, il faut faire un projet avec Ballet Bros. Et voilà, ces trois films-là, on s'est dit qu'on va mettre l'Abitibi, c'est évident. Puis après, il y a d'autres choses qui sont venues se greffer. Des choses qu'on avait vues par le passé, mais qu'on n'avait pas forcément imaginé tout de suite rajouter. Et puis, ça nous a permis d'assurer une invitation qu'on avait fait en 2020 à Éric Morin, qui est le réalisateur de Chasse au Godard d'Abitibi et Nous sommes Gold. Son billet était presque pris en 2020 lors de l'édition annulée. Et puis on a réparé cette erreur et lui il vient aussi. Il est aussi originaire de là-bas. Ce qui fait que de fil en aiguille, on se retrouve avec une énorme délégation de l'Abitibi qui sont extrêmement motivés. Ils ont pris leur billet avant même qu'on leur envoie des lettres d'invitation. Et depuis le mois de décembre, ils sont au taquet pour arriver. Puis là, ils arrivent dans très peu de jours.
Mercredi à 14h, tu viens de le dire, c'est la chasse au Godard d'Abitibi. Mmh. C'est quoi le Godard ?
Le Godard, c'est tout simplement Jean-Luc Godard.
D'accord. Ouais. Bah,
ouais. Alors, c'est un film qui est vraiment, que j'invite vraiment à voir, mais à voir aussi un film qui va être projeté le lendemain qui s'appelle Mai en décembre. En fait, Je ne veux pas me tromper d'année, mais je dirais 68-69. Godard est venu à Rouyn-Noranda en Abitibi pour aller, quand il était dans un travail d'exploration sur les télévisions locales, un peu comme Radio Barthas version télé. Et donc le film s'inspire de cette anecdote et donc c'est la venue d'un cinéaste suisse qui vient voir la télé locale et il va y avoir toute une émulsion qui va se créer autour de ça, des amourettes qui vont se créer, etc. Parce qu'il y a toute une équipe de tournage qui va venir en plein milieu de l'hiver à Rouyn-Noranda. Alors, il y a la petite subtilité, c'est que Château Godard d'Abitibi, Abitibi, c'est avec 2B, 2I, 2T. Donc, il y en a un peu plus que dans la vraie région. Et donc c'est une comédie qui détourne un peu, qui part de cette anecdote. Et donc, Mai en décembre est un petit documentaire de 20 minutes qui sera projeté le lendemain et qui raconte là, pour le coup, la vraie histoire qui est vraiment intéressant de voir comment Godard s'est retrouvé là-bas. Et petit à petit, on s'est dit, on l'a associé d'ailleurs, ce programme Mai en décembre, à Voir Ali, où dans la même lignée, on a la venue de Mohamed Ali et comment des gens qui devaient créer un événement sportif, créer une soirée pour annoncer un événement sportif important au Québec, sont partis sur un délire de faire venir Mohamed Ali, comment ils y sont arrivés. Et je trouvais que déjà, ça montrait vraiment l'image de ces gens de la BDB, mais aussi qu'ils faisaient écho à ce qu'on fait ici, où c'est pas parce qu'on va avoir quelqu'un de connu. Et ça m'a fait penser notamment à Richard Desjardins quand on l'a fait venir en 2015. C'est pas parce que c'est Richard Desjardins qu'on va pas essayer de le faire venir. Ça a fonctionné. Alors Richard Desjardins n'est pas Mohamed Ali, loin de là, mais il y avait aussi ce retour là au départ de dire mais Richard Desjardins ne viendra jamais à Florac, c'est loin, c'est une petite ville, etc. Et en fait ici j'ai l'impression que ce soit en musique, dans différents domaines culturels, on n'hésite pas à faire venir des pointures et des gens connus, non pas pour que la France entière vienne ici, mais parce que il y a pas de raison qu'on soit plus lisé qu'ailleurs. Et donc là, ça fait un petit doublé intéressant. Et ils ont pas de film, ils ont aussi eu Gainsbourg qui est venu. Et là, ils ont pas de traces filmées. Mais voilà, c'est assez rigolo parce que c'est pas des villages, c'est des villes qui sont quand même très éloignées. Et surtout dans les années 70-80, fallait être très motivé pour aller là-bas.
À l'impossible, nul n'est tenu en tout cas. Alors, si j'ai bien compté, tu en as cité quelques-uns. Cette année, c'est pas moins de 17 invités, actrices, acteurs, réalisateurs, réalisatrices et des pros du monde du cinéma. Alors évidemment, on en a cité quelques-uns et on va pas pouvoir parler tout le monde, mais est-ce que c'est possible de faire un focus sur peut-être certaines d'entre elles? Parce que c'est ça, parce que cette année, vous invitez majoritairement des femmes.
Oui.
Je ne sais pas si c'est fait exprès.
Non, mais... je précise, c'est toujours un hasard. On aime bien les quotas, mais on n'aime pas forcément les respecter. Par rapport à ça, on a toujours une volonté au départ d'essayer d'avoir un équilibrage homme-femme, mais après le hasard fait qu'il y a des gens disponibles ou pas, il y a des gens c'est pertinent ou pas. Et puis après il y a des gens qui se rajoutent et des gens et au fil de l'aiguille, quand on prend avec recul un peu là où on en est, on se réalise effectivement cette année qu'on a majoritairement des femmes, mais c'est pas volontaire. Par contre, c'est pas non plus au départ volontaire d'avoir 17 invités. C'est-à-dire que nous, on part sur une dizaine, 10-12 en comptant les accompagnants. Là, on est 17 invités officiellement invités. On va rajouter des accompagnants, puis des gens qui se greffent, qui sont pas vraiment invités, mais qui vont passer, mais qui sont quand même des gens qui viennent du Québec ou qui viennent du milieu du cinéma québécois, ce qui fait qu'on va être aux alentours de 25 personnes québécoises qui viennent pour le festival, forcément, parce qu'on passe pas à Florac par hasard. Nous, le point de départ, il est vraiment aussi parti par rapport au concert de Pierre-Luc Briand et Isabelle Blais, donc un couple dans la vie, mais aussi sur scène, en musique et à l'écran. Vous avez déjà vu Pierre-Luc Briand, puisqu'il est déjà venu à Florac, qui joue le grand frère dans Crazy, on avait présenté ça. Les deux jouent dans Le Nick, c'était un film qui était présenté en séance de minuit. Et Pierre-Luc Briand jouait dans La disparition des Lucioles, qui était notre film d'ouverture en 2019, si je ne me trompe pas. Et, Et donc Isabelle n'était jamais venue. Et en fait, l'an dernier, Jimmy, notre président, a rencontré. Et puis ils se sont dit, ça serait bien que vous veniez en concert à un moment donné. Ça n'a pas été compliqué, mais on a convaincu la Jeunette Verte de les recevoir. Et donc, au départ, ils ne venaient que pour faire un concert lors d'une tournée. Donc, ce concert va être vendredi prochain, le 21 avril. Sauf qu'en fait, pandémie oblige, les calendriers des salles de spectacle ont changé et ils se sont retrouvés avec juste nous et ensuite une date en Belgique. Ils partent en Belgique après. Et donc on leur a proposé de rester un peu plus longtemps et de présenter d'autres œuvres qu'on n'avait pas encore présentées, donc notamment Borderline, qui dans lesquelles les deux jouent, mais où Isabelle Blaise joue le personnage principal, Pachikan dans ma cabane, qui est notre seul film jeune public, qui va être présenté le samedi matin, où il joue les parents d'une petite fille qui a très envie qu'ils se séparent, et puis ils vont aussi faire des différentes rencontres autour de courts-métrages où il y aura une petite causerie pour essayer de comprendre un peu comment ils fonctionnent dans la vie, sur scène, etc. Finalement, ils seront là pendant tout le temps. Donc, on a Pierre-Luc qui revient. On va avoir aussi Stéphane Lafleur qui revient depuis 2015. Il est attendu après Tudor Nicole. Il vient enfin de faire un nouveau film qui s'appelle au Québec Viking et en France UFO. Le distributeur l'a renommé On dirait la planète Mars. C'est une comédie qui va être présentée en ouverture. Et là, pour le coup, c'est vraiment... Et un coup de cœur sur le réalisateur, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'étaient pas là en 2015, je vous invite vraiment à rencontrer Stéphane, qui est la personne la plus gentille au monde. Et puis, surtout, ses films, parce que lui a un univers créatif, comique, extrêmement travaillé, qui s'adresse à la fois au grand public, comme à des gens qui veulent voir vraiment des films d'auteur, etc. Et là, pour la particularité de ce film-là, il est co-scénarisé avec Éric Boulian, qu'on avait reçu aussi en 2018 et qui lui est très inspiré de la comédie, on va dire, américaine, style Judd Apatow, etc. Et c'est l'histoire, on dirait la planète Mars, de doubleurs. C'est une équipe de doubleurs de... Marsonautes, je ne sais pas si on dit ça. Il y a une équipe qui est partie sur Mars.
Mais en tout cas, on comprend.
Et voilà. Et puis il y a cinq personnes même, qui vont devoir faire la doublure au cas où et répéter tous les faits et gestes au quotidien de ce qui se passe sur Mars pour, si jamais il y a un problème, essayer de le résoudre. Mais du coup, des femmes vont pouvoir interpréter des hommes vont pouvoir interpréter des femmes, et il va se passer des situations complètement ubuesques. Je vous invite à voir la bande-annonce, vous comprendrez rapidement. Donc ça, c'est le film d'ouverture. Et Stéphane, on va le garder tout le festival pour lui aussi présenter En Terre Inconnue, qu'on n'avait pas présenté, qui est son premier film, et qu'on n'avait pas présenté quand il était venu la première fois. Et puis, si je continue sur les invités, notamment sur la compétition, on va avoir notamment Catherine Jerkovic et Myriam Charles, deux réalisatrices issues de l'immigration. C'est ça qui nous intéressait beaucoup à mettre en avant cette année au niveau de la diversité. Catherine Jerkovic va présenter deux films. Un film qui est tourné en Uruguay, où elle a des origines. Qui s'appelle Les Routes en février, et puis Le Coyote qui va être présenté en première européenne, où là on suit un immigré mexicain extrêmement touchant, extrêmement adorable, qui est cuisinier, qui avait son restaurant, mais il est au chômage et il cherche du boulot. Mais si vous verrez que c'est pas quelqu'un qui cherche à s'imposer non plus, et puis tout d'un coup va arriver dans sa vie sa fille avec qui il avait coupé les ponts parce qu'elle est toxico et que c'est très difficile de la garder, et elle va arriver dans son appartement avec son petit-fils. Il ne savait pas qu'il en avait un, son petit-fils de 5 ans, et elle va lui demander de le garder, sauf que lui n'a pas du tout prévu. Il a une vie solitaire très, on va dire, rangée. Il a ses petites habitudes. Donc ça, Le Coyote, qui va être présenté à la fois à Florac le 19 avril et le 20 à Amande, au cinéma Trianon. Et puis le 20 au soir à Florac, ça sera le film de Myriam Charles, Cette maison. Myriam, on avait déjà présenté un court-métrage d'elle, mais elle n'était jamais venue. Elle est d'origine haïtienne. On avait présenté des films quand on avait mis en avant l'équipe de Spira, je crois, en 2018. Mm-hmm. Et puis elle travaille beaucoup sur des des expérimentations cinématographiques. C'est un docu-fiction expérimental. Alors, ça peut faire peur un peu comme ça. Vous verrez que c'est aussi une comédie. Elle a vraiment un passé avec un réalisateur qu'on n'a pas encore invité, qui s'appelle Olivier Gaudin, vraiment sur un travail autour de la comédie. Et puis, donc, il y a beaucoup d'images d'archives, du film tourné en pellicule en 16 mm, d'Haïti, etc. C'est magnifique. Et à la fois, c'est l'histoire d'une morte, tu dirais une histoire vraie, enfin, d'une personne de sa naissance qui raconte un peu la manière dont elle est morte et qu'elle essaye de parler avec le monde du vivant. Et c'est pareil, dit comme ça, ça peut être étrange. Je vous invite à voir la bande-annonce, mais c'est vraiment une forme de cinéma qu'on n'a pas l'habitude de voir au Québec. C'est vraiment Myriam, c'est une crème, c'est pareil, c'est quelqu'un qui vraiment a envie de discuter avec elle, elle est très extrêmement généreuse et elle va tout son cinéma est fait, on va montrer plusieurs courts métrages d'elle, etc. Tout son cinéma est fait à partir des images, on découvre du coup des images d'Haïti, des choses qu'on connaît pas du tout, c'est pas du tout des images cartes postales, on a des choses sur la réalité historique, des choses qui viennent du passé, et puis voilà l'histoire des morts qui parlent aux vivants. On est aussi dans une culture aussi en Haïti qui est pas tout à fait la même que et au Québec et au France. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, je terminerai, il y a encore beaucoup de choses, mais peut-être avec le film de clôture, Noémie Dioui, qui va... donc Noémie Dioui qui va sortir, on fait la dernière avant-première du film en France, il sort le mercredi juste après une tournée de 50 dates d'avant-première dont 30 accompagnées par la réalisatrice, donc elle va être un peu sur les genoux, elle vient de se poser 24 heures dans les Cévennes avant le, donc elle sera là que le week-end et elle vient avec son actrice, on a la chance parce qu'elle fait sa tournée, pas toute la tournée avec l'actrice, Kelly Depot qu'on a vu dans j'ai perdu La Déesse des Mouches à Feu qu'on avait projeté à l'automne 2021 et qui joue une jeune fille un peu perdue puisque sa mère refuse de la garder, elle vit dans un foyer, elle veut tout faire pour retourner chez sa mère et elle va être embarquée dans des histoires de prostitution juvénile, donc le film est vraiment un très beau film sur la prostitution juvénile qui du coup est un message et en tout cas un sujet qui permet d'être mis au grand jour dans une fiction quand même relativement grand public et du coup d'amener tout un débat et des questionnements. C'est un film qui est beaucoup accompagné par le CDFF en France et du coup il permet de montrer une réalité aussi des jeunes filles avec quelques chiffres à l'appui, etc. Donc ça, pour des personnes qui se rendent pas compte, ça peut être assez sidérant, et pour les personnes qui connaissent bien le sujet, ça fait du bien d'avoir un film qui parle vraiment de ça. La réalisatrice sera là, l'actrice sera là, ça va être une belle fête de clôture puisque c'est leur dernière, comme je précisais, la dernière date d'avant-première après 2 mois de tournée. Donc ça, c'est vraiment des films voilà qu'on porte et qu'on met en avant. Et autant On dirait La Planète Mars que Noémie Dioui sont des films aussi qui sortent en France. Donc le public de Florac va être à la fois parmi les premiers spectateurs, mais aussi va pouvoir faire l'écho auprès de leurs cousins, leurs amis, leurs familles, de la qualité des films qu'ils ont vus.
Pour revenir à ces présences, donc actrices, réalisatrices, réalisateurs ou professionnels, c'est important, on en parlait hors antenne avant de démarrer cette émission, d'accompagner un film et que justement, alors même si ça les met sur les rotules, hein, puisque 30, 40 avant-première, c'est quand même du costaud, et puis c'est dans toute la France, faut y aller quoi. Mais c'est ultra important et ça permet d'avoir une porte ouverte, une lecture en fait du film qu'on n'aurait pas forcément si il n'y avait pas leur présence.
Oui, c'est ça. En fait, il y a là cette année, je crois qu'on a une seule séance où il n'y a pas d'invité. Mais donc c'est pour nous c'est important parce que c'est ces moments de rencontre qui fait que le public adhère. En fait, on s'aperçoit. Ben, on le sait que les gens s'il n'y a pas d'invité sont moins enclins à venir. Mais même c'est pas ça, c'est que ça va donner une appréciation aussi par rapport à la personne. Et donc, on va avoir des gens qui vont tomber en amour, pour reprendre une expression québécoise, avec un ou une invitée, peut-être que le film qu'il a fait, c'est pas forcément ce qu'il apprécie le plus, mais par contre la rencontre avec la personne peut changer complètement, et c'est ce souvenir là en fait que les gens gardent, ce souvenir. Ils se souviennent des films, mais ils se souviennent surtout aussi des rencontres. Mmh. Et donc, pour nous, c'était important d'accompagner. On aura un film qui va être Arsenault et Fils, qui est en compétition, mais qui, le réalisateur sera présent en visio, mais en direct. Il a pas pu venir. Mais sinon, et c'est aussi important par rapport aux invités, enfin aux cinéastes québécois, parce que déjà c'est des films qui sont, chacun le sait, peu montrés en France, mais c'est aussi l'occasion de les accompagner, parce que parfois on peut se poser la question de se dire, je prends l'avion et je pars une semaine pour présenter un film pendant 30 minutes. Mmh. Ça, si on remet les choses dans un contexte économique, climatique ou ce qu'on veut, on peut se poser des questions, mais ce qui est important, c'est que c'est des gens qui travaillent pendant 2, 3, 10 ans pour travailler sur un film, et donc ils ont envie de la compagnie, ils ont envie de le porter, ils ont envie de rencontrer le public, de voir les réactions. Donc, ce qu'on cherche surtout, c'est ça, c'est à susciter la rencontre. Et en invitant ces personnes pendant une petite semaine, c'est aussi des gens que vous allez pouvoir croiser à la boulangerie, sur l'esplanade, au concert, dans un bar ou n'importe quoi. Donc, on amène aussi cette vie locale-là, et en disant, c'est à ce moment-là que ça se passe. Il y a des moments de l'année, c'est plutôt des forains. Il y a des moments de l'année, c'est plutôt des gens qui font du rallye automobile. L'an dernier, on a eu les trois en même temps.
C'est vrai.
Cette année, ça va être un peu plus séparé, ça va être peut-être plus facile. Mais c'est important parce que si je prends l'exemple du rallye automobile, je le pratique pas, je sais quand ils sont là. Alors oui, il y a le bruit des moteurs, pour reprendre du titre du film qu'on avait projeté l'an dernier, mais on voit qu'il y a cette vie-là. Et on sait qu'à ce moment-là de l'année, c'est le rallye, il y a des coureurs, etc. Et il y a une dynamique qui se crée dans la ville. C'est la même chose avec la fête foraine. On vient d'en faire les frais, à tous les sens du terme. Et donc, ce qui est important, c'est ce qu'on cherche à faire aussi avec le festival. C'est pas juste dire, oui, il y a des films à la Jeunette Verte, ceux qui ont envie de les voir, ils y vont voir. Non. Et donc, on essaye de plus en plus d'imprégner le festival dans la vie locale, dans la population locale, et de travailler avec un maximum d'associations locales. Là, cette année, comme chaque année, avec les petits cailloux, avec la bête aux cailloux pour le tintamarre de l'ouverture, avec les gens de la soupe qui vont suivre aussi, avec Radio Bartas, vous serez là pour un plateau. Mais aussi, là, on travaille avec Ballet Bros sur un projet de danse depuis le mois d'octobre. On travaille avec donc projet danse dont le résultat sera quand même le dimanche à 16h avec Habiter le Mouvement, un projet théâtre avec l'école d'Ispagnac et la compagnie Imbido, Alexandre Castonguet, on le confie à la compagnie Valzac qui va lui proposer une masterclass. Donc il y a vraiment cette idée de on va réunir pas toutes les associations, mais des associations autour d'une table. Enfin, on l'a pas fait, on allait y voir individuellement, mais l'idée, c'est ça. Et de leur dire, nous, il y a des films qui nous font penser à ce que vous faites. Est-ce que ça vous intéresse de croiser les choses? Parce que eux vont amener leur public. On va communiquer différemment dessus. Il y aura un film à la bibliothèque. Là, on va investir cette année la Maison du Tourisme et du Parc National, quasiment tous les jours. C'est une nouveauté aussi, avec leur toute petite salle. Alors, je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont mettre pas les pieds là-bas, parce qu'on estime que c'est que pour les touristes. Oui. Mais il y a une très belle exposition. Et puis, ils ont une petite salle de projection, 20-25 places. Et donc, on va faire des micro-projections gratuites avec des courts-métrages. Et donc, ça, on va essayer ça cette année. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Mais du coup, ça permet aussi à la population, aux festivaliers, d'aller découvrir ce lieu-là, qui est pourtant pas très loin. Il faut juste traverser la rivière. Mais De mettre en avant le travail de l'agence d'attractivité touristique, et puis inversement, où le parc national des Cévennes, et inversement, eux nous rendent l'appareil parce que il y a des enjeux de tous les côtés. Donc c'est vraiment l'idée que le festival soit diffus dans la vie locale, dans la ville, sur le territoire, puisqu'on est, comme je disais, on se fait une séance amende, on travaille un peu avec Ispagnac, On envoie un cinéaste au Vigan. Bon, là, on est un peu plus loin, mais il y a quand même une séance de Nous sommes Gold au Vigan, à Montpellier aussi. Donc, essayer de diffuser un petit peu tout ça pour que pendant une semaine, il n'y a pas que nous, il y a d'autres choses. Mais que la population locale sache que les Québécois seront là.
Et pour être tout à fait complet au niveau des lieux, la masterclass d'Alexandre Castonguay sera à L'Encrier.
Oui, c'est ça.
Le jeudi 20 avril. Donc là, c'est vraiment toute la ville qui va bouger. C'est génial.
C'est ça. Et le lendemain, il sera à la bibliothèque pour Alex Marchal-Amour. Donc c'est vraiment... On va être un peu à la mairie aussi avec pour une table ronde, enfin un atelier participatif. On fait deux ateliers participatifs qui, là, concernent plus la vie locale et les acteurs de la vie locale que nos invités. Un le vendredi matin, le 21 avril, avec le réel CPUE Lozère, autour de la consommation, enfin, des ressources locales et de la valorisation des ressources locales, énergie et diverses choses. Vous verrez dans le programme, à partir d'un film de Dominique Leclerc qui s'appelle Pour nous, chez nous. Et puis, le mercredi 19 aussi, on travaille avec l'agence d'attractivité touristique autour d'un projet culturel de territoire. Pareil, à partir d'un film québécois, en fait, on se dit, on va regarder le film, tes courts-métrages, et puis on va se dire comment ça peut nous inspirer localement pour imaginer soit faire la même chose ou de l'adapter au territoire, etc. Donc, ça concerne à la fois des élus, ça concerne à la fois des acteurs du territoire, des techniciens impliqués dans ces questions-là, mais aussi le grand public. Donc, le mercredi matin, c'est à la Maison du Tourisme et du Parc, puis le vendredi matin, ça va être à la mairie. Mais donc, et là, on sort du cadre, on va dire, cinéma québécois, mais il y aura quand même un film projeté par un des cinéastes québécois qui sera là, et là, on rattrape toutes les associations locales.
Et ouais, il va s'en passer des choses. Bien sûr aussi, on a parlé de plein de temps forts du festival. Il y aura la 5e compétition de court-métrage. Ouais. Ça, c'est le samedi, il me semble.
Oui, on l'a avancé à 14h. Ouais. Ça, c'est une séance gratuite. Puisqu'il y a un prix du public. On invite tout le monde à venir pour remettre ce prix. C'est au vote, tout simplement dans la salle. On va vous donner des petits papiers. Il y a aussi un jury pour cette compétition qui est présidé par Isabelle Blais et qui nous permet aussi de faire venir des professionnels du cinéma, Quentin Delcourt qui est auteur, réalisateur, producteur et directeur du festival Pluriel à Compiègne, et Sébastien Bouilly du festival francophone des Œillades à Albi. Et le bureau du cinéma du Saguenay, la région du Saguenay au Québec, remet un prix qui lui sera remis par Alexandra Garon du festival Regard au Saguenay, dont on avait déjà parlé en 2021. Et donc là, il y aura cette compétition. Il y a aussi une compétition long métrage avec un prix du public. C'est un jury non professionnel issu du public. Donc vous pouvez, alors c'est fini, on a notre jury de 6 personnes. Vous pouvez candidater, dire moi je veux faire partie du jury, vous regardez les 6 films en compétition et après il y a une délibération un peu comme dans les conditions professionnelles. Il n'y a pas besoin d'être très cinéphile, il n'y a pas besoin de connaître le cinéma québécois. Il y a juste besoin de tenir sa langue, exactement. Et puis l'idée c'est vraiment de travailler sur la question, de défendre vos idées, d'avoir des avis critiques sur les films que vous avez vus, etc. Et donc là ils vont être accompagnés par Pierre de la Nouvelle Dimension et Sylvain Garel. Et tous ces prix-là seront remis lors de la soirée de clôture. Et puis après, on a deux moments forts un peu musicaux. On va une soirée karaoké après le concert de comme dans un film, là, le vendredi soir. Et puis le samedi soir, on fait une soirée tous en verre. Pourquoi tous en verre? C'est tout simplement parce que on reprend notre thématique chromatique de l'affiche.
Ouais.
L'idée, on a proposé à DJ Creek de venir faire un petit set DJ entre nos deux films du samedi soir. Bungalow, qui est une très très chouette comédie avec Laurence Côté-Collins, que je vous invite, vous la verrez à la soirée d'ouverture, vous ne pourrez pas la louper. Généralement, elle vient avec des chaussures à talons compensés avec des paillettes et qui clignotent. Et Bungalow, c'est une comédie pour tous ceux qui ont fait des travaux chez eux. Venez voir parce que c'est l'histoire d'un couple, un jeune couple un peu paumé qui rachète une petite maison qui est vraiment toute pourrie et qui l'ont acheté pas cher, donc ça les arrange, et puis ils vont devoir faire tous les travaux et puis c'est de galère en galère, et va va s'imprégner dedans une émission de télé que vous connaissez tous, mais la version québécoise, pour refaire les aider à faire les travaux. C'est très très drôle. Laurence Connais-Colin, c'est vraiment un personnage à rencontrer. Et ensuite, soirée donc DJ, vous habillez en verre ou pas, mais il y aura aussi à boire, à des choses en verre, etc. Et après notre film de minuit, on retrouve aussi notre traditionnel film de minuit avec Brain Freeze, qui est un film de zombies. C'est une comédie, je rassure, ça reste tout public, à période de 12 ans, et tous en verre aussi, parce que là, il est question d'une substance chimique très très verte qui rend les films, les gens très très bizarres.
Mmh. Et, rien que l'affiche est un peu.
Le visuel, voilà, tout petit bébé avec ses yeux verts. Et ça se passe, alors c'est très étrange parce que ça se passe, je sais pas si des gens se souviendront du quartier, on avait présenté un film qui se passait dans ce quartier. C'est un quartier de gens richissimes sur une île, en fait, sur un bras du Saint-Laurent à Montréal, avec des maisons de millionnaires. Et tout se passe, en fait, dans ce quartier qui a été confiné. Alors, le film a été tourné avant la pandémie, je précise, mais vous verrez qu'il y a quelques similitudes et ça nous va vous faire rappeler quelques bons ou mauvais souvenirs. Et donc, ce quartier est confiné où on va retrouver un golf, des maisons de millionnaires, etc. Non, c'est vraiment un film très très chouette et qui va être présenté pour la première fois aussi en France, et on l'espère d'autres fois, puisqu'on on a acquis les droits de distribution du film également.
Et évidemment, il y aura aussi une carte blanche cette année, vous la laissez comme elle a 60 ans à la Cinémathèque québécoise.
C'est ça. Ça aussi, c'est une rencontre qui s'est faite. On se connaît très bien depuis longtemps. On se rencontre chaque année. Et quand ils m'ont dit qu'ils allaient faire leurs 60 ans, je leur ai dit « Welcome, venez à Florac, ça va être l'occasion de les mettre en avant ». Donc là, c'est Guillaume Lafleur qui est directeur de la programmation qui va venir présenter deux programmes. Enfin, il y aura trois moments de rencontre. Un moment plus... il y a une carte blanche plutôt féministe avec « Depuis que le monde est monde » sur... des histoires de naissance et qui ont été filmées. Donc c'est un film qui date des années 80, un documentaire qui a été restauré, qui sont des choses qu'on ne voit pas forcément beaucoup et au cinéma. C'est un documentaire de création. Et il va présenter aussi un programme expérimental. Donc pour les gens qui aiment le cinéma expérimental, gardez votre vendredi après-midi du 21 avril. Et puis aussi, il va présenter l'institution, la Cinémathèque québécoise. Qu'est-ce qui s'est passé en 60 ans? Qu'est-ce que c'est qu'une cinémathèque, tout simplement? On devait faire une table ronde avec les autres cinémathèques régionales. Malheureusement, ils n'ont pas pu venir. Donc lui, il va être un peu plus tout seul. Mais c'est vraiment pour les gens qui s'intéressent au cinéma expérimental ou qui connaissent pas, ça va être l'occasion de découvrir un peu plus ce type de cinéma avec des formats très courts, hein, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas parti pour 10 ans, avec des films qui durent entre 5 et 15 minutes et surtout quelqu'un pour les accompagner. Et il a édité un livre qui s'appelle XPQ, une histoire du cinéma expérimental qu'on trouve à la Nouvelle Dimension, donc vous pourrez avant ou après feuilleter ou l'emprunter.
En tout cas, vous l'avez compris, auditeurs, auditrices, la programmation est dense. Vous retrouvez tout sur cinémaquébécois.fr/vue-du-Québec. Alors, au niveau des infos pratiques, hein, comme d'habitude, vous avez gardé, entre guillemets, une politique de prix abordable.
Oui, les prix n'ont pas changé, et pour cause. Pour la petite anecdote, on a repris notre trame du programme de 2017 et on a oublié de changer les tarifs. Alors rassurez-vous, les tarifs sont bons, puisque on n'a toujours pas augmenté nos tarifs. Mais la petite subtilité, c'est que donc c'est 6,50€ tarif plein, 4,50€ tarif réduit. Vous pouvez prendre des 3 billets d'un coup pour 12€ en tarif réduit. Et alors, ce qui n'apparaît pas, c'est 3 billets tarif plein, c'est 18€. Ouais. Mais ça, on vous le dira à la caisse. Et ce qu'il y avait en 2017, c'était 10 séances tarif réduit pour 35€. C'est transformé simplement par un pass complet du festival pour le même prix.
Donc c'est ça. Donc voilà. Il y a un pass complet du festival.
Il apparaît dans le programme papier imprimé comme 10 séances, mais en fait, déjà si vous faites 10 séances, c'est que vous faites à peu près tout le festival. Ouais. Donc le pass, c'est le même prix. C'était au tarif réduit. Ça veut dire qu'il faut être adhérent à la Nouvelle Dimension. Si vous ne l'êtes pas, vous adhérez à la Nouvelle Dimension. Ça coûte 15€. Du coup, au total, ça vous fera 50€. Mais vous êtes adhérent toute l'année, puis ouais, vous bénéficiez de tarif réduit. La petite erreur aussi, c'est que le concert, comme dans un film, on est bien sur du plein tarif 12 €. C'était les tarifs de la Jeunette Verte. Tarif réduit 10 €. Par contre, ce n'est pas gratuit pour les moins de 12 ans, c'est 6 €. Je m'en excuse, c'est une erreur de... C'est une coquille dans le programme papier.
Ça arrive,
va être corrigé.
En même temps,
hein. Donc voilà, mais on vous fera comprendre. Et puis je voilà, c'est un concert qui est accessible aux moins de 12 ans, évidemment. Mais voilà, ça ne sera pas gratuit. Ça sera réduit pour les moins de 6 ans, je crois. Mais voilà, ça reste pas très cher. Et je vous invite à prendre, voilà, évidemment, le pass si vous voulez voir plein de films. Mais chaque année, on a des gens qui viennent au départ voir un film, puis le lendemain, ils reprennent un ticket, puis ils reprennent un ticket, puis en fait, l'année d'après, ils disent, je vais déjà en prendre 3 d'un coup. Et puis en fait, ils s'aperçoivent que finalement ils se prennent au jeu d'un festival de cinéma et ils viennent voir des films tous les jours.
Alors pour le concert, c'est sur la jeunetteverte.fr qu'on réserve. Donc il faut être bien clair que le pass festival n'offre pas l'entrée au concert.
Non, le concert est organisé par la Jeunette Verte, conjointement avec nous quand même, mais c'est vraiment, on va dire, une billetterie à part. Et puis voilà.
Au moins c'est tout à fait clair. cinémaquébécois.fr/vue du Québec. Merci Guillaume.
Oui.
Vas-y.
Juste pour préciser, si jamais vous ne pouvez pas venir parce que vous n'êtes pas à Florac, vous pouvez participer puisque le festival est aussi en ligne avec 5 films. Les Chiens Loups, L'Hernie d'Attaque, Habiter le Mouvement, Nous sommes Gold et Borderline. C'est présenté tout ça dans notre programme à la fin. Et pour ça, il suffit d'aller sur notre site internet Ciné Club. Et là, vous aurez à partir de 18 avril, pareil, ces 5 films-là. Et ça vous coûte, je ne sais plus, je crois que c'est 10 € les 5 films. Donc, c'est pas très cher.
Et c'est jusqu'au dimanche 23 avril, ça va être encore une belle édition, nul doute. Beau festival à toi et à toute l'équipe.
Ben merci, en
amusez-vous
tout cas.
Amusez-vous bien, et puis auditeurs, auditrices, allez voir du cinéma, et puis ça va être la fête aussi avec le karaoké, je pense qu'on va bien se marrer. Soit clair, hein, le karaoké, ce sera peut-être à la salle des œuvres.
Peut-être.
Sait pas encore, voilà.
Disons que c'est un joker si jamais il pleut. Et puis on se retrouve avec Air de Bartas le 19 avec un plateau qui sera ouvert au public, enfin vous pourrez entendre et voir ce qui se passe. Où tu vas recevoir nos invités.
Ça va être absolument génial.
On verra lesquels, puisqu'il y en a beaucoup.
Ouais, c'est sûr. En tout cas, cinémaquébécois.fr, Vue du Québec. Allez, on part pour un festival d'un tout autre genre, L'Âme Folle. C'est ce week-end et c'est Arthur qui sera au téléphone avec son président. On écoute un groupe qui sera au festival, ça s'appelle Teiro.
Si j'étais un peu à côté de leur pompe, enfin, non, en fait, comme si j'étais pas vraiment bien dans leur pompe, enfin, je veux dire, tu sais, c'est comme si je me sentais pas bien dans leur peau, tu vois,
comme si j'étais en jet lag, là-haut, je crois que je suis resté coincé dans les nuages, c'est chaud, dans ma tête, il manque une case, c'est le chaos, mais bon, je suis prêt pour le décal.
Fort, comme d'être à la page, d'avoir le plus beau corps. Je n'ai même pas de tatouage, je ne compte pas le score ou les likes sur ma page. Je n'ai pas peur de ma mort et je me sens mieux avec l'âge. Même si je fais des efforts, en vrai je me fous de mon image. Plus qu'à l'appel de la mode, je préfère celui du grand large. Je ne me prends pas pour un king, je fais pas de la musique pour le fric. Ils disent qu'elle est dans leur parking, moi j'en veux même pas dans mon clip. Si je monte sur le ring, ce n'est pas pour y faire un strip. J'ai rien contre le bling bling, c'est juste que c'est pas trop mon trip. Je suis pas doué pour me vendre, pas dans la compétition. J'ai toujours voulu apprendre qui fait les répétitions. Y a pas de couleur pour les âmes, l'histoire est celle de tous les hommes. Comme on n'a pas besoin d'être une femme pour être écœuré par un viol. Je crois qu'il y a des choses à défendre bien plus grandes que la possession. Si j'étais le plus riche du monde, j'aurais honte de ma position. Comme si j'étais en jet lag, là-haut, je crois que je suis resté coincé dans les nuages. C'est chaud, dans ma tête il manque une case. C'est le chaos, mais bon, je suis prêt pour le décalage. Alors ciao.
Ils disent que je ne sais rien, que je ne sais pas parler, que je fume trop de joint, que j'écoute trop Marley. La France ne va pas bien, mais c'est moi qu'ils veulent soigner. Heureusement que je me sens loin de leur idée du succès. Je fais tout à l'envers, je passe au rouge, m'arrête au vert. Faut tout le temps que je bouge, j'irai sans doute en enfer. Ils ouvrent tous leur bouche, je garde mes commentaires. Y'en a qui me prennent pour un ouf, est-ce que je leur dis moi comment faire? Je ne suis d'aucun camp, je ne défends aucun drapeau. J'ai beau expliquer troupeau. Désolé, je n'aime pas les cons. Peu importe ce qu'ils suscitent, tous les moyens ne sont pas bons. Quelle que soit la réussite, faites-vous gonfler aux hormones. Distribuez-vous des palmes à la reconnaissance des hommes. J'échange la paix et le calme, je suis sensible à en crever. Les injustices me rendent malade, souvent je me prends à rêver de fraternité d'accolade. Comme s'il était un jet lag.
Le morceau s'appelle Jetlag. Ils seront au festival L'âme folle. Ben, L'âme folle, puisqu'on en parle, c'est Arthur qui s'est collé à l'interview du président. Je vous propose de le retrouver. Ça a été enregistré hier matin. C'est parti.
Donc, le festival de L'âme folle reprend ses droits pour la 20e édition. Et pour en parler, nous sommes avec Valentin Taillefer-Fontenas, son président. Bonjour.
Bonjour.
Donc ça se passe ce week-end à Alès, c'est organisé par les étudiants de l'école des mines, qui dit étudiant, dit que leur gars change tous les ans. Est-ce que c'est pas trop dur ou un peu flippant, finalement, de reprendre ce monument qui est le festival de l'âme folle?
C'est vrai que c'est quand même une grosse machine d'organisation, le festival de l'âme folle. C'est aussi ça qui fait que c'est une super expérience pour nous. Et alors oui, c'est bien sûr un peu flippant, mais on est accompagné par les anciens, c'est ça qui est beau en fait, on sait qu'on peut compter sur eux. Chaque année, ils reviennent. En fait, là, ils vont être une vingtaine à revenir et à nous aider pour l'installation, même les jours J. Donc voilà, on sait qu'on est accompagnés et toute l'année, on pouvait compter sur eux. Donc il y a vraiment une passation qui se fait. On ne nous laisse pas comme ça avec un navire perdu. Non, non, on est vraiment bien aidés. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de l'asso dans laquelle on s'investit, quoi.
Mais qu'on se rende toutes et tous bien compte de ce que ça représente l'orgue d'un beau festival comme la Meufolle. Comment ça se passe? C'est quand même assez énorme, l'orgue. Enfin, comment vous jonglez entre vos études et l'orgue du festival, contacter les groupes, faire la com, gérer le côté pratique. Bref, est-ce que c'est une machine sympa à faire tourner? Est-ce que vous avez des billes de ceux qui l'ont organisé l'année dernière? Ça, vous m'avez déjà répondu. Ça représente quoi en termes de temps, l'orgue du festival, en plus de vos études?
En termes de temps, ça représente beaucoup, pour être honnête. C'est un peu comme si on avait une deuxième vie à côté de l'organisation, enfin à côté des études, pardon. En tout cas, pour ce qui est du noyau dur de l'organisation. En fait, on est un bureau de 9 personnes, voilà, avec des deuxièmes années, mais aussi deux premières années qui, justement, assurent la passation l'année d'après, pour avoir des connaissances qui se suivent. Et voilà, ça, c'est le noyau dur de l'association. On est 9. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est une deuxième vie à côté des cours. Le lundi soir, c'est les réunions, 2-3 heures, parfois 4 heures juste après les cours. Mais en même temps, ce qu'il y a, c'est qu'on les voit même pas passer, quoi. C'est ça qui est fou, et c'est là qu'on se réalise que c'est vraiment incroyable comme expérience d'organiser un festival de musique alors qu'on est étudiant. C'est qu'on les voit à peine passer, ces heures-là, et puis c'est pas des heures de corvée. Donc je saurais même pas les estimer, parce que même si on passe énormément de temps à organiser le festival, c'est le plus souvent du plaisir et des rencontres. Donc franchement, on ne les sent pas passer. Et puis sinon, pour parler un petit peu comment on structure l'organisation, oui, il y a le noyau dur, ensuite on a des responsables de commission qui sont sous le management un peu. Bon, c'est du management copain, hein, c'est pas c'est rien d'une entreprise, bien sûr. Mais histoire de déléguer quand même certaines tâches, de se répartir l'organisation. Donc il y a plusieurs commissions, il y a le snack, le bar, village associatif, voilà, histoire de catégoriser un peu chaque partie du festival et puis mieux pouvoir se répartir les tâches, ça contribue à ce que ça prenne moins de temps notamment et que l'organisation soit un peu plus carrée. Donc voilà, ouais, il y a ces responsables qui se répartissent ces commissions. Et ensuite, les premières années peuvent s'investir dans chacune des commissions pour aider sur des tâches peut-être un peu parfois trop longues pour les responsables des commissions, etc. Donc voilà, en fait, on est vraiment beaucoup à s'investir tout au long de l'année. On doit être environ 80 si on compte aussi les premières années. Ça fait beaucoup de bénévoles, hein, tout au long de l'année. Et puis après, les jours J, pour toutes les petites mains qui font fonctionner le festival, que ce soit pour l'installation, la cuisson des frites, le service, les rondes de sécu, tout ça. On sera à plus de 300 à être bénévoles le jour J.
Ah oui. Ah oui. Ouais. Mais bon, du coup, vous vous basez quand même sur les acquis des autres années, donc vous n'avez pas tout à réinventer chaque année. C'est quand même un soulagement, j'imagine. On va parler de la programmation, bien sûr. Comment et à partir de quand vous faites la programmation? C'est une dizaine de concerts sur les deux jours?
Oui, c'est ça. Généralement, c'est 10 concerts. Là, c'est 9 concerts plus un sound system le samedi après-midi. Sachant qu'aussi, on a un partenariat avec la scène nationale d'Alès cette année. Et on s'associe au concert Crater Club qu'ils organisent en fait le samedi après-midi. On organise des navettes pour s'y rendre, etc. Et la programmation est en résonance avec la nôtre. Donc ça fait 2 concerts en plus. Voilà, ça c'est juste une petite aparté. Mais sinon, oui, c'est 9 concerts sur les 2 soirs. Donc le vendredi, il y a 5 concerts. Il y en a un de plus que le samedi parce qu'il y a l'artiste du tremplin qui fera l'ouverture du festival. Pour expliquer un peu ce que c'est le tremplin, c'est... Un concours en fait qu'on organise pour pouvoir mettre en valeur des artistes de la région. Donc il y a des candidats au tremplin, on fait une présélection. Ensuite il y a le tremplin de la Meufolle qui se déroule en novembre en fait chaque année. Là 4 artistes ont l'occasion de performer. On va pouvoir choisir un des 4 artistes, y compris avec le public. Cette année c'était au Weinenbier d'Alès, donc vraiment le public a pu voter et participer à la soirée. Et ce qui fait que maintenant ce sera à minuit 4 cette année qui fera l'ouverture du festival. C'est le gagnant du tremplin, c'est histoire de mettre à l'honneur un artiste de la région. Là, c'est un quatuor alésien et nîmois. C'est vraiment important pour le festival d'avoir cette ouverture.
Excuse-moi.
Ouais, donc ça, c'est juste pour parler du tremplin. Et puis sinon, pour le reste de la programmation, en fait, on l'a choisi en début d'année scolaire. Donc dès septembre, c'est là qu'on commence à vraiment choisir la programmation. Il y a les troisième années qui sont donc ceux du bureau ou des respos de l'année dernière, qui ont un peu plus d'expérience, et c'est grâce à eux qu'on arrive à choisir la programmation un petit peu plus, de façon un peu plus cohérente, j'ai envie de dire. Et bien sûr, ça reste le bureau actuel qui choisit la programmation. Il n'y a pas une personne qui s'occupe de la progra. On est 9 à la choisir. Et c'est ça aussi qui fait qu'elle est assez diversifiée. Et qu'elle reflète quand même le fruit de la réflexion de plusieurs personnes. C'est vraiment intéressant, quoi. C'est pas une personne qui fait la programmation. Et donc c'est vrai que cette année, on a gardé la base reggae. Donc si on regarde, on a quand même Massia Sound System. Ils étaient déjà venus en 2015. On est vraiment content de les revoir en 2023. Tairo aussi, une belle figure du reggae. On a Ryan, qui est un reggae montant. C'est quand même une révélation francophone en ce moment. On est aussi content de l'avoir. Son public est vraiment passionné, j'ai envie de dire. Ça fait plaisir d'avoir ce genre d'artiste sur le festival. Et donc, en plus de cette base reggae qu'on garde d'année en année, on a l'électro, la dub. Donc, on a Raccoon, par exemple. On a Undercover, De Banco, qui sera là avec Woody Vibes et Nawa. Ils seront 3 et à mon avis, ce sera vraiment intéressant comme mélange. Et puis, petite nouveauté ensuite pour cette année, on a rajouté du hip-hop en tête d'affiche. Voilà, c'est pas une ouverture de soirée, c'est une tête d'affiche hip-hop cette année. C'est Caballero et Jean-Jas qui seront présents et on a aussi hâte de voir ce que ça va donner.
Et oui. Ça, tu m'étonnes, le nouveau lancement, donc nouvelles idées.
Voilà.
Et donc pour cette 20e édition, vous avez également une petite nouveauté puisqu'il y aura des concerts le samedi après-midi au Cratère pour à peine de 4 euros. Ouais. Voilà, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus?
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que le samedi après-midi ça reste l'ambiance Meufolle, donc il y a toujours un camping animé, sound system qui sera présent. Cette année c'est Imperial Mighty Sound, c'est un sound system reggae de Montpellier qui sera présent avec Baltimore, un chanteur. À mon avis intéressant aussi le mélange sound system chanteur, ça peut être très sympathique. Donc toujours ce samedi après-midi avec les jeux géants, les food trucks, le bar de sortie, etc. Très très bonne ambiance sur le camping, j'ai des bons souvenirs. Et en plus de ça, donc on a fait un partenariat avec la scène nationale d'Alès cette année et on s'est associé à 2 concerts qu'ils organisent le samedi après-midi du festival. On organise donc des navettes pour s'y rendre et ce sera de 16h à 18h, le Crater Club 3 avec 2 artistes. Le premier, ce sera Edena, qui est... un artiste gagnant en fait du tremplin départemental du Gard. Vraiment, c'était une musique très intéressante à découvrir. Et je suis aussi content qu'on s'associe à cette programmation. Et en deuxième artiste, il y aura Dub Traveler qui proposera donc de la dub en résonance avec ce qu'il y a sur le festival. Voilà, effectivement, c'est pour 4 euros de plus d'un pass me folle où vous avez accès à ces deux concerts le samedi après-midi.
Ça a l'air super tout ça. Bon, on va parler un peu d'infos pratiques, on y va. Alors, ça coûte combien pour assister au festival et où est-ce qu'on se procure les billets? Et est-ce que c'est possible de prendre son billet sur place?
Alors, bah, complètement. On vous recommande de les prendre en avance, évidemment, par exemple sur WizEvent, notre billetterie principale. Mais vous pouvez bien sûr les prendre sur place, on aura une billetterie physique. Alors, pour ce qui est du pass un jour, que ce soit que vous les preniez maintenant ou sur place, ce sera le même prix. C'est 29 euros pour le pass un jour. Et c'est 42 euros pour le pass deux jours. Voilà. Donc c'est quand même des prix qui restent abordables. Hein. Ça, c'est vraiment aussi la touche du festival. On essaie de proposer une programmation qui est vraiment riche. On a des têtes d'affiches comme Mathias Sound System, Caballero et Jean-Jacques. C'est quand même intéressant. Le camping est gratuit. Et le pass deux jours coûte 42 euros. Voilà. C'est quand même un festival qui est abordable. On aime bien garder ça. Cet aspect-là sur le festival. Et évidemment, la billetterie sera disponible sur place. Si vous voulez prendre votre place en avant, vous pouvez aller sur mefolle.com. Et puis, il y a un petit onglet billetterie où vous pouvez choisir parmi nos billetteries. Voilà.
Très bien. Et bien, pour ceux qui nous écoutent, ça leur sera utile. Donc, vous avez pas mal de partenaires pour vous aider à l'orgue du festival. Radio Bartas en est un. Et est-ce que vous avez encore besoin de bénévoles pour cette année? Parce qu'on peut faire passer le message, bon, même s'il est tard.
Ouais, bah pour cette année, ouais, on a assez de bénévoles, ça ira. Mais c'est vrai que ceux qui sont intéressés d'être bénévoles sur l'orgue d'un festival comme celui-là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, et on a désormais TikTok, n'hésitez pas à aller voir. Et ben en fait, vous pouvez nous suivre et puis l'année prochaine, courant février-mars, vous pourrez postuler pour être bénévole sur le festival. Voilà, on accepte aussi des bénévoles extérieurs. Parce que comme on l'a dit, c'est organisé à 100% par des étudiants des mines d'Alès. Mais pour ce qui est du bénévolat des jours J, on l'ouvre complètement au public extérieur et c'est carrément possible d'être bénévole sur le festival.
Super, le festival de la Meufolle, c'est ce week-end, vendredi et samedi, au parc des Expos de Alès. Toutes les infos et la billetterie, c'est sur meufolle.com. Bah, merci beaucoup Valentin, et excellent festival à tous. Merci.
Merci.
Merci à toi Arthur. C'est la fin de cette matinale, on se retrouve lundi pour parler du Gestival qui aura lieu à Florac, le festival de conférences gesticulées qui aura lieu à Florac fin avril. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, on se quitte avec Massélia Sound System, ils seront vendredi au festival de la Meufolle. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal, prenez soin de vous, à lundi, ciao.
Ti dei ragali, farendo un sali pulito, per lo gioia e per lo trovare, lei sono un passa. Le musiche lei si strambò, lei si sorri delle tue le por, per cantarsi un tuo giorno d'accordo, lei sono un passa. In la plaza, già mai lasso, va la basso senza 30 anni, in la testa, la vuolesta, di la vita senza predicare, in la plaza, c'è de casso, di se strasse si ne mule pa, in la testa, c'è de pesto, lei sono passa. Tuerno la ribotto del fracca, mi fa rentecla li bugia, per le stile per lo trova, lei sono passa. Dedi nous pintas fa des fumes, à qui s'y crame à la marine, nous voulons cura du tristune, laissons-nous pas ça. Dei fada, fuori gitarre in libordia, mi gelus le mori farda, lei sa nu passa. Tingu ai senza pensamen, infama per lu batarmen, filan deve lu firmamen, lei sa nu passa. In la plaza, già mai lasso, va la basso senza 30 anni, in la testa, la vuolesta, di la vita senza predicare, in la plaza, c'è de casso, di se strassi si ne mule pa, in la testa, c'è de pesto, lei sono passa.
Le festival de la Meufolle, organisé par les étudiants de l'école des mines de Alès, revient cette année.
Ça se passe au parc des expositions de Alès, les vendredis 14 et samedi 15 avril.
Au programme de cette 20e édition, Minuit 4,
Massilia Sound System,
ou encore Undercover,
Empire Mighty Sound, et bien d'autres.
Il y a un camping gratuit à proximité.
Toutes les infos et la billetterie, meufolle.com.
C'est comme si j'étais un peu à côté de leur pont. Enfin, non, en fait.
Aïoli, les valables, ciao, les gonflants.
Le festival de la Meufolle, c'est les 14 et 15 avril à Alès. Et bim.